Radio Okapi. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
Trente jours ouvrables accordés à 1200 sociétés œuvrant dans la sous-traitance en RDC pour se conformer à la loi. Ces entreprises ont déjà été sanctionnées après une période de 10 mois d'appel à régulariser leur situation. L'ultimatum est donc lancé depuis lundi par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Interdiction de toute forme de campagne électorale précoce dans les médias en RDC. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. En effet, depuis la publication par la CENI de la liste définitive des candidats députés nationaux, le CESAC dit constater avec regret une montée en flèche des campagnes électorales précoces dans les médias. Et puis, province de la Tchopo, le nouveau directeur général de l'ISC Kisangani annonce la création d'un fonds d'appui à la formation des assistants et chefs des travaux détenant des projets de mémoire ou des doctorats, mais bloqués faute de moyens financiers. Une première dans les établissements de l'enseignement supérieur de la Tchopo, le DG Jean-Claude Essouka est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Une semaine après la radiation de 1200 sociétés qui œuvrent dans la sous-traitance en RDC, un délai de 30 jours ouvrable est accordé à ces sociétés pour se conformer à la loi. L'annonce a été faite le lundi 25 septembre par Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Ces entreprises ont été finalement sanctionnées après une période de 10 mois d'appel à régulariser leur situation. Explication avec jeudi Daniel Kachama.
Les 1200 entreprises sanctionnées disposent des 30 jours pour se conformer aux conditions d'éligibilité prescrites par la loi. Celle-ci stipule que 51% des parts d'une entreprise de sous-traitance doivent être détenues par les Congolais et 49% par les expatriés. Miguel Katembe, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC.
Nous leur accordons 30 jours ouvrables pour introduire les recours, dépasser les 30 jours. Tout contrat signé avec les sociétés principales sera nul de plein droit. La résistance que nous rencontrons dans ces secteurs, c'est que la plupart des sociétés principales sont eux-mêmes des sous-traitants déguisés.
Rappelons que ces entreprises ont été sanctionnées après un contrôle exercé dans 20 secteurs d'activité de la sous-traitance. Miguel Katembe, le patron de la sous-traitance en RDC, lance un appel à la population congolaise. Il encourage les jeunes particulièrement à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Nous sommes en train d'assainir ces milieux afin de pouvoir laisser de l'espace à notre population qui longtemps ou jadis était frustré à l'accès des marchés à la sous-traitance. Le combat du président de la République, que les Congolais puissent aussi participer en tant que des sociétés principales et non pas de rester des sous-traitants éternels.
Et puis, la mobilité climatique en Afrique, c'est le thème principal de l'atelier ouvert hier à Kinshasa. Ces assises de 2 jours organisées par le Conseil économique et social congolais en collaboration avec l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique ont pour but de lancer une étude approfondie sur les changements climatiques. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a procédé à l'ouverture de ses travaux, a indiqué que les changements climatiques sont une réalité vécue par toutes les communautés. Il appelle les participants à fournir des conclusions et recommandations capables d'influencer les politiques publiques dans les différents pays. Jean-Michel Samalou Kondé au micro de Paul Matendo Mayamba.
Les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent de nos communautés, ainsi que leur milieu de vie. À plus d'une occasion, les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pays hôte, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification de notre programme lié au climat.
Rendons-nous au Kasaï Oriental. Trois cadres de la Direction générale des recettes du Kasaï Oriental sont suspendus à titre préventif avec ouverture d'une action disciplinaire. Il s'agit du directeur général de la régie financière de la province, de la directrice en charge des recettes non fiscales ainsi que du directeur en charge des recettes fiscales. Cette décision est contenue dans l'arrêté provincial du 22 septembre. L'autorité provinciale reproche à ces trois cadres plusieurs griefs, dont l'inexistence des notes de perception et l'opacité dans la gestion des frais de fonctionnement. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Aimé Matamba Chibamba, directeur général de la DGRKOR, Thérèse Mitongonsana, directrice en charge des recettes non fiscales, et Patrick Chikunga Wampoi, directeur en charge des recettes fiscales, ne peuvent plus désormais engager la direction générale des recettes du Kasaï Oriental DGRKOR. Plusieurs griefs sont portés à charge de ces trois cadres de la régie financière provinciale. Le gouverneur de province ad intérim leur reproche l'inexistence des notes de perception en souffrance avec de montants importants, les contraintes et commandements non exécutés, les suspensions des minorations des taux locatifs par les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus locatifs et l'opacité dans la gestion des frais de fonctionnement. Ce n'est pas tout. Il est également mis à leur charge des doutes sur la sincérité des déclarations contenues dans certaines lettres de transport présentées au péage, ainsi que la non-activation de la taxe conventionnelle de comptoir de diamant, pour ne citer que ça. L'arrêté provincial indique qu'en attendant l'action disciplinaire, le chef de division recouvrement est désigné directrice générale ad intérim de la DGRKOR. Toutes nos tentatives pour joindre ces trois cadres suspendus se sont avérées vaines. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga, le commissaire provincial de la police a présenté lundi au vice-gouverneur de province les présumés voleurs des feuilles de cathode de cuivre. Le numéro 1 de la police a expliqué les circonstances de leur arrestation en montrant aussi les biens volés. Le vice-gouverneur, qui a salué le travail de la police, a indiqué que ces personnes devraient être transférées au parquet pour qu'elles répondent de leurs actes. Plus de détails avec Jean Ganduka Bongo.
D'après la police, c'est à la frontière de Tsinsendagar à Musoshi que les feuilles des cathodes de cuivre et les câbles électriques ont été retrouvés dans un véhicule qui s'apprêtait à traverser la frontière de la Zambie. Le chauffeur a pris les larges et ce sont deux convoyeurs qui ont été arrêtés. C'était 156 feuilles des cathodes de cuivre et 15 sacs contenant les câbles électriques. Pour les deux convoyeurs, les propriétaires du véhicule se trouvent en Zambie. Toujours selon la police, toutes les personnes qui ont facilité le passage de ces biens volés ont été arrêtées, d'autres sont en fuite. Et très souvent, ces minerais sont volés sur des camions qui les transportent notamment sur la route des contournements, autrement appelée route des poids lourds, qui relie la route de Kasumbalesa à celle qui mène vers la ville de Likasi. C'est là que les malfrats braquent les camionneurs avant de subtiliser l'effet des cathodes de cuivre. Le vol des cathodes de cuivre et de câbles électriques sont très récurrents à Lubumbashi. En l'espace de 2 mois, c'est la 5e fois que les cathodes de cuivre sont saisis par les services de sécurité, notamment la police, soit environ 500 feuilles de cathodes de cuivre et plusieurs quantités de câbles électriques. Les personnes précédemment arrêtées et les autres sont entre les mains de la justice. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, le bureau intégré des Nations Unies à Kalemie a fait un don mardi d'une cabine électrique compacte à la SNEL. Cette cabine est constituée d'un transformateur de 630 kVA, des deux disjoncteurs moyenne et basse tension. Il y a aussi un stabilisateur élévateur de 500 kVA basse tension. Pour le chef de centre de la Société Nationale d'Électricité SNEL à Kalemie, cet équipement va aider dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique dans la ville de Kalemie. Jules Kiouya explique au micro de Paul Amunanga.
C'est un geste très louable qui témoigne des bons rapports et des bonnes relations qui ont caractérisé les liens entre la MONUSCO et la SNEL. Parce que je pense que si ces liens n'étaient pas au beau fixe, la MONUSCO n'aurait jamais songé à rapprocher la SNEL pour faire une telle donation. Mes impressions sont davantage enrichies de positivité en rapport avec les besoins, surtout des riverains de Kalemie. Vous savez que la ville est en train de s'étendre au jour le jour. Bien, cet équipement nous permettra à coup sûr d'alimenter ceux qui sont encore en attente aujourd'hui de l'électricité, mais également, surtout, d'assurer la sécurité. Vous savez, la nuit, c'est le grand et premier facteur de l'insécurité. Mais quand on aura alimenté l'énergie électrique à tous les alentours, nous croyons que la MONUSCO aura participé à un grand pas dans la sécurisation des personnes et des biens autour des Kalemie.
Et ça va aider aussi dans la lutte contre les délestages?
Non, pas forcément, parce que le délestage n'est pas forcément lié à la présence ou à l'absence des transformateurs. Les délestages sont liés plutôt à la disponibilité des charges dans chaque secteur.
Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, organe des régulations des médias en RDC, interdit toute forme de campagne électorale précoce à travers les médias dans le pays. Dans son communiqué d'hier 26 septembre, le CESAC dit constater avec regret une montée en flèche d'une campagne électorale précoce dans les médias, ce depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale par la CENI le 23 septembre dernier. Le bureau du CESAC demande aux uns et aux autres de respecter la loi et le processus électoral lui-même. Des détails avec Fulbert Balolagué.
Les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication rappellent que la date de début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n'est pas encore arrivée et dans son rôle d'organe régulateur, le CESAC demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. Le CESAC demande aussi aux médias et journalistes qui s'adonnent déjà à cette pratique au mépris de la loi de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC bar AP bar 002 bar 2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias. Ces communiqués du CESAC s'adressent aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnel des médias ainsi qu'aux acteurs politiques. Les bureaux du CESAC invitent alors l'observance stricte des prescrits de l'article 80 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale.
Autre nouvelle, les évêques de la CENCO se rendent ce mercredi à Rome pour prendre part au synode des évêques catholiques du monde entier. Une rencontre avec le pape François est prévue après le synode et il sera aussi question de passer en revue sur la situation de la RDC, explique le secrétaire général de la CENCO. Pour prendre des informations à la source sur l'état de la nation et les éléments du langage lors de la rencontre avec le pape, le président de la CENCO, Marcel Outembi, accompagné du secrétaire général, a rencontré hier Christophe Mbosonko Diampuanga, président de l'Assemblée nationale. On écoute à ce sujet Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté le pape François et porte-parole de la CENCO. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
À la veille de son voyage à Rome, le président de la CENCO qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel, on a parlé, c'est une déformation, parce que je n'ai pas dit qu'il y aura, non. Attention, si on ne fait pas attention, on risque de trouver dans une situation difficile.
Rappelons, s'agissant des élections, que Mgr Cholet a sensibilisé à l'importance de la confiance, car il a estimé que si on ne fait pas attention, les élections de décembre prochain pourraient déboucher sur une situation difficile. Parlons de l'Assemblée nationale, notez qu'elle a adopté hier une série de lois sur l'aviation civile. Le président Christophe Mboso souligne que ces textes ont une importance capitale pour la vie de la nation, spécialement pour le secteur de l'aviation civile qui s'est mis en règle par rapport aux normes de l'aviation civile internationale. L'adoption de ces 6 projets de loi va permettre à la RDC de rendre le secteur congolais d'aviation au standard international. Parmi ces lois examinées hier, il y a notamment le projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole pour répression d'actes illicites de violences dans les aéroports et la loi autorisant l'adhésion de la RDC à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et feuilles aux fins de détection. On écoute à ce sujet le président de la commission extérieure de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez qu'en matière d'aviation, nous avons toute une difficulté. Nous n'avons pas encore adhéré aux différents protocoles et conventions qui sont arrêtés en matière de l'aviation civile. Comme la République a adhéré à tous ces différents protocoles, cette fois, il fallait que ça soit ratifié par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avons examiné tout ce qui avait été signé par le gouvernement et ratifié au jour d'aujourd'hui pour que ça soit quelque chose qui puisse être coulé en forme de loi. Ce sont des lois pratiquement d'abord qui vous mettent sur le même échiquier international par rapport aux autres et qui vous obligent à développer ce que vous avez comme votre aviation. Et c'est ce qui nous manque. Je pense qu'avec ça, en tout cas, on aura fait œuvre utile. La République démocratique du Congo, comme toujours, ira de l'avant. Parce que notre aviation a des problèmes, mais maintenant, je pense qu'avec tous ces textes que nous finalisons, nous aurons en tout cas à nous féliciter parce que notre aviation va évoluer au même titre que d'autres aviations sur l'échec.
Direction le Nord Kivu. Insécurité grandissante, infiltration des présumés espions des rebelles du M23 et redéploiement des rebelles dans des anciennes positions autour de la ville de Goma. Tels sont les faits déplorés par le comité provincial de sécurité lors de sa première réunion extraordinaire présidée hier à Goma. Réunion présidée par le nouveau gouverneur intérimaire, le général-major Peter Chirimwami. Dans un extrait rendu par le porte-parole du gouverneur, ce comité appelle l'armée et les services de sécurité à la vigilance et à rester en alerte maximum. Les propos du lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, recueillis par la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République à la tribune des Nations Unies faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté à la frontière congolaise. Plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne.
Et après le redéploiement des FARDC vendredi dernier à Mushaki, dans le territoire de Masisi, notez que le comité provincial de sécurité a instruit par la même occasion le déploiement de la police dans cette région.
Actualité internationale.
L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt ce mercredi matin avec ses 4 collaborateurs, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. Son départ a été confirmé par la source ministérielle qui précise que l'avion est parti en direction du Tchad.
L'invité.
Nous sommes dans la province de la Tchopo. 2 semaines après sa prise de fonction en qualité de directeur général de l'Institut supérieur de commerce ISC Kisangani, le professeur Jean-Claude Essouka Alfani annonce un projet salutaire pour le personnel scientifique de cet établissement. Il s'agit de la création d'un fonds d'appui à la formation des assistants et chefs des travaux détenant des projets de mémoire ou de doctorat, mais bloqués faute de moyens financiers. Une première dans les établissements de l'enseignement supérieur de la Tchopo. Quel est l'objectif poursuivi par ce fonds et à quand sa mise en œuvre? Le professeur Jean-Claude Essouka, notre invité, répond à Jacques Moukonkolé.
Professeur Jean-Claude Essouka Alfani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez à peine de prendre vos fonctions à la tête de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Déjà, vous annoncez vos couleurs. Quelques réformes sont en vue, notamment celles qui concernent la formation du personnel scientifique. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative?
Mais écoutez, monsieur le journaliste, l'enseignement supérieur universitaire de notre pays est en train aujourd'hui de basculer vers un nouveau système. C'est le système LMD. Ce système a un certain nombre de conditionnalités. La qualification du personnel enseignant, c'est un facteur très important dans le système LMD. Et lorsque nous voyons aujourd'hui l'effectif du personnel enseignant de l'ISC qui s'en gagne, nous avons une 60aine d'enseignants, mais 10% seulement du personnel académique, c'est-à-dire des professeurs. Alors, si nous allons au deuxième cycle des masters avec toutes ces filières-là, c'est-à-dire que le gros d'enseignants sera composé de professeurs visiteurs qui viendront d'ailleurs, ça va demander des moyens financiers importants. C'est pour cela qu'il faut petit à petit, bien sûr, qu'il faut déjà commencer à préparer la relève.
Donc c'est l'un des objectifs que vous poursuivez en initiant à ce fonds d'appui à la formation des enseignants.
Justement, et comment soutenir la formation du personnel, nous avons initié la création d'un fonds d'appui à la formation du personnel.
Concrètement, à quoi servira ce fonds d'appui au personnel?
Nous savons qu'il y a des gens qui traînent avec des thèses à la maison. Il y a des gens qui ont des mémoires de DES à la maison, faute de moyens. Et ce fonds-là va appuyer, en tout cas, les personnels de l'IEC qui s'en allient. Ces personnels-là qui a des thèses, n'est-ce pas? Des mémoires de DES et ne savent pas descendre, faute de moyens, les fonds vont prendre en charge ça. Les fonds appuiera aussi les paiements des frais académiques, n'est-ce pas? Pour les pousser. Aller de l'avant pour que dans peu de temps, donc le personnel, l'IEC Kisangani, puisse disposer d'un effectif du personnel académique assez confortable pour aider à pouvoir assurer les enseignements au niveau des masters.
Et qu'en est-il des modalités pratiques?
On va mettre des modalités et il y aura une certaine rigueur. Parce que si l'établissement vous prend en charge par rapport à votre formation de troisième cycle, il faut pas aller là-bas s'amuser. Il y a un deadline et la formation d'EDES, c'est 2 ans. Alors nous poussons les gens à aller faire ces 2 ans-là et vous terminez votre mémoire, vous le défendez. Si vous allez au-delà, et à ce moment-là, les fonds ne prendra plus en charge ça. Même pour la formation au doctorat, c'est 3 ans. Alors on pousse les gens, vous y allez pendant 3 ans. En tout cas, les fonds prendra en charge les frais en rapport avec la formation.
L'Institut supérieur de commerce de Kisangani n'organise pas le troisième cycle. Les étudiants seront obligés de se déplacer, d'aller ailleurs. Est-ce que le fonds pourra prendre aussi en charge les frais de séjour, les frais des transports?
Écoutez, tout le monde ne va pas aller à Kinshasa. Nous avons des économistes. Pour le troisième cycle, on organise à l'Université de Kisangani. Et ceux qui font les droits, nous avons la faculté des droits, l'Université de Kisangani qui organise le troisième cycle. Il n'y a que, n'est-ce pas, des filières spécifiques pour lesquelles le troisième cycle n'est pas organisé ici à Kisangani et nous allons voir que certains, on peut les envoyer à Kinshasa, évidemment. C'est un engagement que le comité de gestion a pris au moment opportun. Ceux qui souhaiteraient aller poursuivre leur troisième cycle à Kinshasa pour des filières telles que le marketing, telles que les douanes et assises, étant donné que ça ne s'organise pas ici, l'informatique aussi par exemple, en tout cas, les fonds s'organisera de manière à pouvoir assurer et ce qui est nécessaire par rapport à la France.
À quand précisément la mise en œuvre de ce projet?
Nous avons lancé l'idée au niveau du comité de gestion. Nous allons convoquer une première réunion extraordinaire du conseil de l'Institut pour que l'idée soit validée là-bas avant la fin de cette année académique. Le directeur général prend une décision pour créer les fonds et ça va démarrer. Ceux qui sont déjà prêts avec des dossiers, nous les poussons. Allez se faire inscrire pour le troisième cycle au niveau de l'Université de Kisangani, parce qu'ici c'est facile à cause de la proximité.
Et cette initiative, c'est vraiment une première dans notre province. Monsieur le directeur général, d'où viendra l'argent?
Oui, l'argent, ça viendra de l'IEC Kisangani, les recettes, et nous allons aussi solliciter des appuis extérieurs par rapport à ça, mais l'organisation commencera d'abord à partir des ressources locales.
Professeur Jean-Claude Essouka Alfani, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Le directeur général de l'IEC Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukokole. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.